ou plusieurs offices dans la semaine qui leur permettent de se retrouver entre eux et de vivre véritablement la vie de l'esprit qui les unit. C'est donc en 1670 que Spener crée ses premiers conventicules. Dans le même temps, il y a eu un autre mouvement qui influe considérablement sur Spener, ce sont les puritains anglais, et notamment au travers de l'Abbadie, nous avons déjà parlé, qui était pratiquement un contemporain pour lui. Ça aussi, l'insistance sur une vie sainte, sur une vie séparée du monde, et l'influence des puritains beaucoup plus que celle justement des quiétistes catholiques. Un autre point sur lequel Spener insiste beaucoup, c'est l'étude beaucoup plus sérieuse de la Bible pour les laïcs. En fait, jusqu'alors, dans les églises protestantes officielles, même si en principe, n'est-ce pas, les laïcs étaient censés lire et étudier la Bible, dans la réalité, ils le faisaient peu. Et c'était surtout les clercs, n'est-ce pas, qui monopolisaient, si j'ose dire, l'étude de la Bible. Et Spener insiste beaucoup sur la nécessité de donner une formation biblique profonde et sérieuse aux laïcs, d'où justement l'institution d'études bibliques qui va être quelque chose de tout à fait nouveau, mais qui va ensuite marquer tous les mouvements évangéliques subséquents qui vont insister aussi sur l'étude biblique. Spener est un homme qui se rend compte qu'il y a un déséquilibre dans la piété de son temps, et il essaye de trouver un moyen terme entre finalement ce qu'avaient marqué aussi les quiétistes catholiques, qui était, si vous voulez, un mouvement contemplatif. Bon, il y a un peu de contemplatisme dans le piétisme, mais également Spener essaie de le tempérer par l'action. Le chrétien n'est pas seulement simplement quelqu'un qui cultive sa communion avec le Seigneur, mais c'est aussi quelqu'un qui agit pour le Seigneur, qui agit par le témoignage, qui agit en aidant les plus pauvres. Et Spener ne sera pas le dernier dans ce domaine-là. Il va fonder beaucoup d'œuvres sociales pour venir en aide aux plus démunis, n'est-ce pas ? Pour lui, ce sont les deux pivots, les deux jambes sur lesquelles marche le chrétien. D'un côté, donc, la communion avec Dieu qui est essentielle, et de l'autre côté, eh bien, l'action pour le Seigneur. Maintenant, Spener insiste aussi beaucoup, n'est-ce pas, sur, vous savez, ce qui était un petit peu la plaie du protestantisme à cette époque-là, puis finalement, ça n'a pas beaucoup changé depuis, pas les controverses doctrinales. C'était l'époque où de nombreuses controverses doctrinales avaient lieu, sur la consubstantiation entre luthériens et réformés, sur la prédestination entre calvinistes et arminiens, sur le baptême avec les baptistes. Enfin, il y avait pas mal de controverses qui déchiraient le protestantisme à cette époque-là. Et Spener va insister sur la nécessité d'éviter des controverses doctrinales qui ne soient pas empreintes de charité. Pour lui, ce qui est important, c'est la charité, l'amour vis-à-vis des frères qui même peuvent ne pas avoir les mêmes types d'opinions, n'est-ce pas ? Il insiste beaucoup là-dessus, un peu trop peut-être d'ailleurs. Parce que finalement, le piétisme, et ça va être la critique qu'on peut lui adresser, la critique la plus vive, n'est-ce pas, c'est que à force d'insister sur la piété comme la chose importante, donc de relativiser un petit peu la doctrine, finalement, eh bien, il va pas être très d'aplomb sur la doctrine. Or, nous sommes quand même ici à une époque où le dogme est considérablement attaqué, notamment avec la philosophie des Lumières, nous l'avons vu. Et là, le piétisme n'est pas à la hauteur du défi, il faut bien reconnaître, n'est-ce pas ? Le piétisme va être incapable de défendre le dogme face à la philosophie des Lumières. Et finalement, il va en être incapable parce que ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas faire d'apologétique, il insiste essentiellement sur l'expérience, sur la vie de piété, sur la communion avec le Seigneur. Ça, c'est plus important que la doctrine. En fin de compte, les deux choses étaient importantes. Et finalement, à force de relativiser la doctrine, eh bien, il ne sera pas à la hauteur du défi et il n'y aura pas de véritable contrepoids qui va être fait à, justement, cette philosophie destructrice des Lumières. Il insiste aussi sur la nécessité d'une prédication plus édifiante. Les prédications, à cette époque-là, étaient des essais littéraires où le pasteur faisait essentiellement montre de son érudition, de sa culture. Il émaillait ses prédications de citations de théologiens ou même de poètes, n'est-ce pas? Ça faisait très bien, n'est-ce pas? Et alors finalement, c'était quelque chose de très cérébral et qui édifiait peu le peuple de Dieu. Et le piétisme va insister sur une prédication beaucoup plus simple, beaucoup plus directe, beaucoup plus pratique et beaucoup plus édifiante. C'est pas pour cela, Spener aussi pense qu'il faut complètement réformer les études pastorales, parce que finalement, les pasteurs, les facultés de théologie, sont formés à cette prédication cérébrale qu'ils dénoncent. Donc, il faut non seulement que les prédications soient plus accessibles au peuple de Dieu, mais il faut aussi, n'est-ce pas, que dans les facultés de théologie, dans les instituts de théologie, eh bien, on modifie cela. Spener est rejoint quelques années plus tard, n'est-ce pas, par un certain Franck, hein, qui va être son adjoint, son disciple et son adjoint. Il est certain que le piétisme se trouvait devant là un défi qui était celui d'un petit peu de l'Église catholique au moment du Concile de Trente, mais que l'Église catholique a su relever, c'est-à-dire réaffirmer et redéfinir les dogmes. Et finalement, l'Église du XVIIIe siècle, le protestantisme du XVIIIe siècle, ne fera pas cela. Ça, c'est dommage. Il est certain que il a bien vu, le piétisme a bien vu un point essentiel, c'est que l'Évangile était beaucoup plus traité comme une doctrine que comme une puissance de Dieu pour le salut, et ça, il va réinsister là-dessus, et avec raison, n'est-ce pas? Mais il aurait fallu aller plus loin. Bien, Franck, en particulier, va rétablir le culte de famille. En fin de compte, Franck va surpasser Spener et puis deviendra le véritable chef du piétisme alsacien en particulier. Il crée le culte de famille en insistant sur la nécessité, n'est-ce pas, que dans chaque famille, on lise la Bible avec les enfants le père de famille leur apprenne à prier, etc. Bon, ça, c'était une très bonne chose. Donc, si vous voulez, tout ce qui a fait finalement la base du mouvement évangélique est né justement dans ce réveil piétiste. Franck, lui, crée ce qu'il appelle des collégiae pietatis, des collèges de piété. Finalement, ce sont des rassemblements qui sont un petit peu plus importants d'ailleurs que les ecclesiolae de Spener, mais qui finalement répondent à la même préoccupation, c'est pas des rassemblements pour permettre au peuple de Dieu d'avoir ce qu'il ne trouve pas dans ses églises officielles, c'est pas c'est-à-dire des réunions qui vont stimuler, comme le nom l'indique, la piété. Alors à partir de l'Alsace, le piétisme va se répandre en Suisse, en Hollande, et puis en fin de compte, on verra dans un deuxième temps en Angleterre. En Allemagne, depuis l'Allemagne, le réveil passe en Scandinavie. Et donc, il va gagner ainsi à peu près toute l'Europe. Franck est un homme qui a rencontré Spener à Leipzig, alors qu'il était étudiant en théologie. Il avait à cette époque-là 25 ans. Et il va adopter à fond les idées de Spener. Il est, à cause de cela, chassé de la faculté de théologie à cause de ses vues piétistes. Et il se rend à Erfurt, où il sollicite un poste pastoral. Là, il prêche le piétisme à fond, et le résultat ne se fait pas attendre. Il est à son tour chassé d'Erfurt. Pardon, oui, vas-y, prends. Finalement, il va se réfugier à La Halle, où se trouve donc Spener, et devenir l'adjoint de Spener avant, finalement, comme je disais tout à l'heure, de prendre la direction du mouvement. Franck est un homme qui est très très actif. Et notamment qu'il y a une grande vision aussi pour ce qui est de les services sociaux, disons le mot. Et puis donc il va créer à La Halle de très nombreuses institutions à partir du centre piétiste qui a été créé par Spener. Et par exemple, il va créer une école des langues orientales, un laboratoire de chimie, voyez-vous, c'est très éclectique, un laboratoire de pharmacie. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, les gens étaient malades et on n'avait pas à ce moment-là, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Il va créer une imprimerie pour diffuser la littérature, un foyer d'accueil pour des veuves, etc. Ouais. Et à partir de là, donc, à partir de La Halle, le réveil va s'étendre à l'Europe tout entière et de là aussi passer aux États-Unis. Alors, à côté de cela, Franck crée aussi un orphelinat, une société biblique pour répandre l'écriture sainte, l'affaire à bon marché. Il a créé une imprimerie justement pour imprimer la Bible à bon marché et permettre qu'elle soit accessible au maximum. Et puis, Franck est un homme qui va avoir une vision missionnaire, ce qui est assez rare à cette époque-là. Nous avons vu que dans le protestantisme au XVIe et XVIIe siècle, il n'y avait pratiquement pas de vision missionnaire. Franck est le premier qui insiste sur la nécessité de répandre l'Évangile dans les pays où l'Évangile n'a pas encore été répandu et de former des hommes et des femmes pour cela. Et alors, il va y avoir tout un élan missionnaire qui va être le résultat, justement, du réveil piétiste. Dans le même temps, un troisième homme vient se joindre à ce duo, n'est-ce pas ? C'est un Wissembourgeois, un Allemand, qui se nomme Bengel. Je ne sais pas comment on prononce. B-E-N-G-E-L. Bengel, comme ça, oui. Lui, alors, est un homme très versé aux Écritures, un petit peu comme Apollos, si vous voulez, si on reprend le livre des Actes, et qui ne supporte plus, n'est-ce pas, la manière dont les pasteurs officiels tordent le sens des Écritures. Et lui insiste beaucoup sur la nécessité de se mettre humblement à l'écoute de l'Écriture, de ne pas vouloir faire dire à l'Écriture ce qu'on a envie qu'elle dise, mais écouter véritablement ce que dit l'Écriture. Alors, c'est aussi un homme qui, on peut dire, est le père de l'exégèse évangélique moderne. C'est un homme qui croit vraiment à l'inspiration de l'Écriture, mais qui a une ouverture d'esprit qui l'amène à penser que, bien que l'Écriture soit véritablement parole de Dieu, eh bien, pour mieux la comprendre, on peut employer comment dirais-je, les sciences de la Bible, on peut employer par exemple la linguistique, la philologie, on peut employer l'histoire ancienne, la géographie biblique et choses comme ça. Et il va mettre au service de l'exégèse ces différents outils et en cela il sera donc le père de l'exégèse moderne. C'est aussi un homme qui s'intéresse aux prophéties et il est parmi les premiers qui redécouvre la place d'Israël dans la prophétie, et notamment l'idée, n'est-ce pas, qu'un jour, Israël redeviendra, le peuple d'Israël retournera dans son pays, et qu'Israël redeviendra un État. Alors, à partir de la halle, à partir de ces trois hommes, le réveil se répand comme une traînée de poudre, et les communautés, nombre de communautés protestantes quasi moribondes, eh bien, sont véritablement stimulées. On peut dire que face à la vague du libéralisme qui résulte des Lumières, n'est-ce pas, eh bien, le piétisme sauve le protestantisme en Europe à cette période-là. C'est vraiment la grande réaction de Dieu. Et le réveil piétiste a fait un bien incalculable au protestantisme. Nous en sommes les héritiers et nous avons une grande dette de reconnaissance vis-à-vis de ces gens-là, même si il ne faut pas idéaliser le piétisme, qui évidemment, comme toute œuvre humaine, hélas, divine certes, mais aussi humaine, eh bien, avait aussi ses points faibles, j'en ai mentionné un tout à l'heure, la relativisation du dogme, n'est-ce pas ? Mais aussi, ce qu'on a beaucoup reproché au piétisme et qu'on lui reproche encore aujourd'hui, n'est-ce pas, c'était devenu au XIXe siècle et au début du XXe siècle une véritable injure que d'être qualifié de piétiste, n'est-ce pas ? Piétiste était synonyme d'austérité un peu triste, d'une piété un petit peu, comment dirais-je, pharisienne, vous voyez, un petit peu comme les puritains en fin de compte, quoi. Hein. C'est vrai, un peu vrai qu'il y avait de ça. C'est vrai que parfois il y a eu ces tendances-là. Il faut pas le nier. Hein. C'est vrai que parfois il y a eu quelque chose d'un peu mièvre, n'est-ce pas ? Par exemple, ce fut le cas aussi au moment du réveil de Zinzendorf, à la fin de sa vie. Zinzendorf avait développé une piété un petit peu à l'eau de rose, quoi, un petit peu ce qui était en l'air du temps finalement, qu'on trouve aussi dans le catholicisme de la contre-réforme, le catholicisme baroque, n'est-ce pas, c'est qu'on trouve chez par exemple dans les livrets des cantates de Jean-Sébastien Bach, il y a des choses qui sont vraiment un peu puériles, hein, je sais pas si Anne sera d'accord avec moi sur ce plan-là, hein, parfois des textes des cantates de Bach qui nous font sourire, quoi, hein, qui passerait plus du tout aujourd'hui, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais ceci étant dit, il est certain que le piétisme a été une puissante force face au rationalisme et a empêché le rationalisme de déferler, en fin de compte. Il y a un autre personnage dont il faut connaître le nom, mais alors lui, c'est un petit peu plus marginaux, n'est-ce pas ? C'est un certain Emmanuel Schwendenborg, Schwendenborg, S-W-E-N-D-E-N-B-O-R-G. Je ne sais pas comment on prononce ça. Qui, alors lui était un homme qui était proche des Quakers. Et il avait reçu des Quakers une vision un peu mystique, très mystique d'ailleurs. Et c'est un homme qui va créer, à la fin du siècle, il est né en Suède en 1668, c'est un scientifique, n'est-ce pas? Et il va créer ce qu'il appelle l'Église de la Nouvelle Jérusalem. C'est tout un programme. Ça montre tout de suite que la modestie n'est pas tellement au rendez-vous et que finalement, il a l'impression d'être arrivé complètement, quoi. Effectivement, c'est ce qui se passe à l'âge de 55 ans. Il affirme avoir reçu une révélation particulière. Il a des fréquentes communications avec les anges. Il parle avec les anges comme on parle avec un voisin, n'est-ce pas ? Et cette vision lui révèle les profonds secrets de l'univers, les choses cachées depuis la création des temps. Et alors, il va consigner ses révélations dans des écrits, dans lesquels il se livre à des spéculations théologiques plus ou moins aberrantes. Il interprète la Bible d'une manière allégorique. Et finalement, la vision d'Emmanuel Schwendenborg, c'est une espèce de retour du vieux mysticisme, du vieux gnosticisme, si vous voulez, qu'on trouve déjà aux origines de l'écriture. Pour lui, il n'y a pas de péché originel. Donc, il n'y a pas de justification, il n'y a pas besoin de justification non plus. Christ est déjà revenu. C'est pour ça qu'on est dans l'église de la Nouvelle Jérusalem. Il a déjà vaincu les démons. Il y a une parousie spirituelle qui est intervenue. Il sera pas le premier à dire, il sera pas le dernier à dire ça. N'est-ce pas? Les adventistes aussi diront ça. Les témoins de Jéhovah aussi. Et puis, finalement, la parousie est survenue en 1757. Voilà. Voilà, il donne, c'est fait. Bien sûr, personne n'a vu le Christ, hein, mais spirituellement, ça y est, le Christ est revenu sur la terre et par conséquent, tout est nouveau. Donc, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est l'époque de la Nouvelle Jérusalem qui alors atteint son apogée, dit-il, en 1771. Malheureusement, évidemment, rien ne se passe vraiment et Schwendenborg va mourir en 1792. Finalement, son mouvement n'a aucun impact et disparaît avec lui. Bon, alors voilà, si vous voulez, les premières manifestations du piétisme. Mais le grand réveil piétiste qui secoue l'Europe continentale en particulier au XVIIIe siècle, c'est le réveil morave. Et nous allons maintenant étudier le réveil morave. Le réveil morave est centré autour de la personne du comte de Zinzendorf, qui va en être l'instrument essentiel. Zinzendorf est né en 1700 et il meurt en 1760. Zinzendorf est un homme qui naît dans une famille qui est déjà marquée par le piétisme. Donc, c'est pas quelque chose qu'il découvre, si vous voulez, d'une manière tout à fait nouvelle pour lui. Mais il va être un de ceux qui va entrer à fond dans cette vision-là, d'autant qu'il va étudier au collège de la Halle, qui a été créé par Franck. Donc là, il va être aux sources même, si vous voulez, du réveil piétiste. Il est né à Dresde et il a été élevé par une grand-mère qui était piétiste, parce que son père était mort et sa mère s'était remariée avec un général prussien qui était toujours en déplacement, donc elle le suivait constamment, tant et si bien que le jeune Zinzendorf avait été confié à sa grand-mère. Sa grand-mère était une femme de Dieu remarquable et a contribué énormément à forger la piété du jeune Zinzendorf, bien que il aura besoin, nous allons voir, de refaire d'autres expériences, mais déjà donc il est marqué de cette manière-là. Il va très jeune s'associer avec un ancien catholique qui se nomme Christian David, qui est né en 1690. Et à cause justement de l'éducation qu'il a reçue de sa grand-mère, Zinzendorf est un très, très jeune, encore enfant, très jeune enfant. Il se pose des questions qui sont souvent au-delà de ce qu'un jeune garçon de son âge se pose. Et notamment, il a une grande soif de vérité. Et toute la vie de Zinzendorf va être marquée par l'amour de la vérité, la recherche de la vérité, l'absolu de la vérité, n'est-ce pas? Et pour obtenir la vérité, rien n'est trop dur, rien n'est trop cher, n'est-ce pas? Pour lui, c'est la vérité qui prime toute chose, n'est-ce pas? Et ça, bien entendu, ça va être des grandes qualités que le Seigneur va utiliser. Et à cause justement de cette faim et cette soif de la vérité, Zinzendorf, très jeune, va se mettre à parcourir toute l'Allemagne pour trouver en quelque sorte les lieux où l'on prêche l'évangile d'une manière qui soit la plus vraie possible. Là, il a tellement faim et soif de vérité qu'il n'hésite pas à visiter toutes sortes de lieux. Bien sûr, il en a les moyens, il est riche, sa famille est riche et il a donc la possibilité de voyager. C'est au cours d'un de ses voyages qu'il rencontre le pasteur Schrick, qui est un piétiste et qui lui montre le chemin du salut, lui montrant comment il est nécessaire pour lui, bien qu'étant né dans une famille pieuse, n'est-ce pas, qu'il fasse une expérience avec Dieu, qu'il fasse l'expérience du pardon de ses péchés. Ce pasteur Schrick était un homme qui avait exercé son ministère en Moravie avant de rencontrer Zinzendorf, et cela aussi ne sera pas sans importance dans la mesure où, beaucoup plus tard, Zinzendorf va s'intéresser justement aux Moraves qui sont persécutés dans cette région de l'Europe. Très jeune, Zinzendorf va se trouver placé au collège de la Halle avant cette rencontre avec le pasteur Schrick. Et c'est très intéressant, là-bas au collège de la Halle, c'est un élève très espiègle, très dissipé, on ne s'attendrait pas ça de lui, ça. Mais il était comme ça. C'est à partir de l'âge de 4 ans qu'il a commencé à chercher Dieu, c'est quand même assez extraordinaire. Ses ancêtres étaient originaires d'Autriche, et ils avaient adopté la réforme là-bas en Autriche, et à cause de leur foi, bien entendu, ils avaient dû s'expatrier, ils étaient venus habiter la Saxe luthérienne. Mais la famille était originaire d'Autriche. C'était une famille extrêmement sérieuse. C'était des gens qui étaient incorruptibles, des gens qui étaient très sérieux, qui étaient de véritables chrétiens, en d'autres mots. Et constamment, n'est-ce pas, ses parents lui répétaient que il faut mettre sa vie au service d'une noble cause, quoi. Ça, c'était quelque chose qui a été inculqué dès son plus jeune âge. Donc, il était né le 26 mai 1700. Et peu après sa naissance, je me disais tout à l'heure, son père est mort. Ensuite, il avait donc été, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, laissé à sa grand-mère. Et la grand-mère, donc, avait récupéré un vaste domaine qui appartenait à la famille. Et là, donc, le jeune garçon a grandi dans ce cadre très, très agréable. Et il avait pour parrain Spener, le fondateur justement du piétisme. Vous voyez que déjà, il y avait tout un ensemble d'éléments là qui étaient convergents. Et c'est quand il entre au collège qu'il est confronté avec la philosophie des Lumières. Et là, évidemment, pour lui, c'est un combat spirituel très important. Comme il a soif de vérité, n'est-ce pas ? Il passe au crible l'Évangile en disant « si l'Évangile est effectivement faux, etc. » Puis il y a tout un quelques années très très difficiles, n'est-ce pas, qui passent là, jusqu'au moment où il se retrouve à la Halle, où là, il va petit à petit reprendre pied. Il se trouve qu'il mange à la table de Franck, le directeur du collège, n'est-ce pas ? Et Zinzendorf, le jeune Zinzendorf, est un garçon qui a passé le stade que nous évoquions tout à l'heure, celui de l'élève espiègle et dissipé. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut vraiment aboutir dans sa recherche. Et quand il considère que le fait de manger à la table du directeur comme un grand privilège, et c'en est un en effet, et là, il parle peu, mais il écoute beaucoup. Il ne laisse tomber, un petit peu comme le jeune Samuel, aucune des paroles qui sortent de la bouche de Franck, du directeur, quoi. Et là, il apprend de Franck un certain nombre de principes qui vont guider son action pendant tout le reste de sa vie. Franck avait en particulier comme principe de ne jamais demander d'argent à qui que ce soit pour les besoins de l'œuvre de Dieu, si ce n'est au Seigneur. Alors, bien sûr, Zinzendorf va avoir le grand privilège d'être fortuné. et de pouvoir donc mettre sa grande fortune, la grande fortune familiale, au service de l'œuvre de Dieu. Mais c'est un principe qu'il gardera aussi constamment pour lui, n'est-ce pas, ne jamais demander d'œuvre de Dieu, d'argent à personne, et il enseignera à ses disciples d'agir de même. Et en principe, n'est-ce pas, pendant plusieurs générations en tout cas, les Moraves auront ce principe-là qui est hérité justement de Franck. Il y a aussi au collège de La Halle, à cette période-là, de jeunes Anglais qui sont venus étudier là et qui vont être, en quelque sorte, les premiers pionniers du réveil qui va naître en Angleterre et qui vont aussi toucher Wesley quelque temps plus tard. À cette époque-là, Zinzendorf a 16 ans et il décide de créer une société au collège pour chercher la présence de Dieu. Il appelle ça le grain de Senvé. Pourquoi ? Parce que il base ce cercle sur deux principes. La foi comme un grain de Senvé, comme avait dit Jésus, et puis l'amour, la charité. Alors, bien entendu, il ne fait pas ça sans l'aval du directeur. Et Franck voit ça, au contraire, d'un très bon œil et encourage la création de ce cercle de foi et de charité. C'est aussi au collège de La Halle que Zinzendorf reçoit la vision missionnaire. La vision missionnaire qui était celle de Franck, n'est-ce pas ? Et à cause de cela, le réveil morave va avoir une dimension missionnaire certaine. Le 16 août 1716, il quitte le collège définitivement. Et se pose alors, il retourne chez sa grand-mère, et se pose alors pour lui le choix d'une carrière. Bon, il est noble, n'est-ce pas ? C'est un comte. Et par conséquent, il n'est pas question qu'il fasse n'importe quoi. On doit tenir son rang à cette époque-là, même si on est chrétien. Alors, il y a finalement pour les jeunes nobles deux possibilités. Le métier des armes, bon, il n'en est pas question, il est chrétien, n'est-ce pas ? Et pour lui, il n'envisage pas un seul instant le métier des armes. La théologie, mais il échoue à ses examens. Pourquoi ? Parce que justement, il est trop évangélique. Alors, finalement, il lui reste le droit. Et il va entreprendre donc des études de droit à Wittenberg, la ville de Luther. Il a hérité de la devise de la famille, qui est très belle, n'est-ce pas, qui est celle-ci. « Je ne cède ni à l'un seul, ni à tous. » La détermination qui est la sienne. Et là, donc, il fréquente régulièrement les églises qu'il a à Wittenberg. Il a d'ailleurs l'impression d'être là, dans le berceau de la foi luthérienne. Mais il est très, très vite déçu en voyant le dogmatisme froid, n'est-ce pas, intellectuel, fermé, intransigeant qui se manifeste là et qui fait que ces gens-là ne supportent pas le piétisme, dans lequel il a été élevé. Alors, il se met un petit peu en retrait et... Bon, c'est le moment où l'on fête à Wittenberg le 200e centenaire de la réforme. Il y a des fêtes grandioses dans toute l'Allemagne, en particulier à Wittenberg, évidemment. Eh bien, Zinzendorf va les bouder. Il ne participera à aucune de ces fêtes parce qu'il se sent mal à l'aise. Et pourtant, il tente un dialogue à partir des principes qui sont ceux de Spener et de Franck, n'est-ce pas, qu'il faut éviter les controverses, qu'il faut essayer de manifester de l'amour vers ceux qui ne pensent pas comme vous. Et c'est alors qu'il reçoit de sa famille l'ordre de rester tranquille et de ne plus entrer dans ce genre de choses. Sa famille, qui pourtant est une famille, nous avons vu, pieuse, mais est quand même très marquée par la culture du temps, et pense qu'il est temps maintenant que ce jeune homme a terminé ses études, qu'il fasse un petit peu preuve de mondanité, quand même dans l'aristocratie, il faut quand même fréquenter le beau monde. Et alors, la famille lui organise un voyage mondain dans les salons, les cercles, les bals, etc., etc. Et c'est donc dans ce voyage-là que Zinzendorf se trouve à Düsseldorf. Et là, donc, il passe devant l'atelier du peintre un beau jour, dans cette ville de Düsseldorf, du peintre Domenico Fetti, qui avait peint, vous savez, le fameux Christ, à la suite justement la question que l'avait posée une jeune gitane qu'il peignait, n'est-ce pas ? Et alors il avait écrit sur ce Christ en croix qu'il avait donc exposé dans sa vitrine. Voici ce que j'ai fait pour toi, et toi qu'as-tu fait pour moi ? Et alors Zinzendorf passe devant ce tableau et il est interpellé par cette phrase. Voilà ce que j'ai fait pour toi et toi, qu'as-tu fait pour moi? Puis soudain, il se rend compte qu'il est en train de gaspiller sa vie et que là, ce voyage n'est pas un voyage qui est dans le plan de Dieu. Manifestement, là, il est dans en train de chercher son plaisir, son égoïsme, etc., satisfaire à des obligations qui sont celles de la société et non pas celles de Dieu et qu'il est en train de se fourvoyer complètement. Il est converti déjà à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais là, soudain, c'est pour lui un appel du Seigneur à se consacrer totalement. Et ce soir-là, rentré donc dans sa chambre, Zinzendorf dépose toute sa vie sur l'autel, disant au Seigneur, peu m'importe ce que va dire ma famille, ce que vont dire mes amis, ce que vont dire les autres nobles, n'est-ce pas? Peu importe ma fortune, peu importe mon rang, peu importe ces choses-là, moi ce que je veux, c'est te servir, c'est que ma vie soit utile. Et il dépose toute sa vie sur l'autel. Alors il écrira ceci, « Dès ce moment, je décidai de découvrir ce qu'il y avait de meilleur dans les diverses confessions. » Et il reprend donc sa recherche. Il découvre un dictionnaire de la Bible qui est d'un certain Debelle, c'est un dictionnaire critique, n'est-ce pas, qui est un encyclopédiste français et qui est rempli de doutes, n'est-ce pas. Et là, c'est vraiment un coup du diable, juste au moment où Zinzendorf essaie de s'approcher du Seigneur, le diable lui met entre les mains ce dictionnaire abominable, n'est-ce pas? Et alors, les doutes naissent à nouveau dans son esprit. Et pendant plusieurs mois, Zinzendorf va lutter contre les doutes qui sont venus, les critiques de l'Église qu'il y a dans ce livre. Et en fait, n'est-ce pas, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Petit à petit, Bible en main, Zinzendorf reprend pied dans la foi et réfute une à une, plus exactement, les critiques de Debelle. Et alors, il va garder toute sa vie ce dictionnaire à portée de la main, n'est-ce pas, pour, si vous voulez, avoir en quelque sorte la matière à cette réfutation des adversaires de la foi qu'il rencontre évidemment à chaque pas. Et finalement, ce livre va lui faire du bien. Il va trouver les arguments nécessaires pour fortifier la foi, justement, de ceux qui sont ébranlés par des arguments de ce type-là. Et puis, en même temps, il reconnaît qu'il y a du vrai. La critique de l'Église, de Debelle, des faiblesses de l'Église, de ses manquements, est juste. Et alors, il se repaît de cela en disant, bien, il faut absolument qu'on relève ce défi. L'Église n'a pas été fidèle dans tel et tel domaine. Eh bien, maintenant, il faut qu'on fasse autrement. Il faut qu'on montre au monde, il faut qu'on montre à des Debelle, aux philosophes des Lumières, à tous ces incroyants, etc., eh bien, que l'Église n'est pas ce qu'ils pensent. Et alors, c'est aussi pour lui le deuxième point, si vous voulez, qui va l'amener à lancer son mouvement. Premièrement, c'était le tableau du peintre. Et le deuxième, c'était ce dictionnaire encyclopédique de Debelle qui va dire, bien là, il y a un défi, n'est-ce pas? L'Église n'a pas été fidèle. Eh bien, il faut montrer. Nous allons montrer par la grâce de Dieu, eh bien, qu'il est possible de vivre une vie chrétienne véritable et authentique. Alors, sa conclusion à la lecture de ce livre, essentiellement, c'est que l'Église a failli parce que sa foi n'était pas suffisamment solide pour qu'elle ne soit pas ébranlée justement par les arguments des philosophes des Lumières. Alors, fort de cette constatation, Zinzendorf va venir au centre du trône de la bête, si j'ose dire, en France, à Paris. À Paris, où là, la philosophie des Lumières bat son plein. Il arrive là-bas le 2 septembre 1719, sous la Régence, à une époque où l'incroyance s'étend partout. Là, il rencontre le cardinal archevêque de Paris. C'est très curieux, n'est-ce pas? Il n'hésite pas à voir cet homme catholique. Et puis, chose étrange, ce cardinal archevêque de Paris se prend d'amitié pour ce jeune protestant, ce jeune comte protestant. On sait qu'à cette époque-là, le protestantisme était interdit en France. Et en fin de compte, cet archevêque de Paris n'est autre que Louis-Antoine de Noailles, qui était le chef de file des jansénistes, clandestinement, bien entendu. Et tout aussi clandestinement, chose étrange, n'est-ce pas, Zinzendorf, beaucoup plus tard, lui demandera de devenir le parrain de son fils, ce qu'il acceptera. C'est assez curieux, il y a ces choses parfois un peu curieuses. Ce qui ne veut pas dire que le cardinal de Noailles n'essaie pas de le convertir au catholicisme. Mais Zinzendorf résistera à toutes les tentatives de conversion de cet homme qu'il respecte, qu'il admire et pour lequel il a de l'amitié. D'ailleurs, il n'hésitera pas à lui rendre l'appareil en lui disant, en lui reprochant d'avoir transigé avec ses convictions jansénistes pour devenir cardinal, ce qui était vrai. Et le cardinal acceptera en quelque sorte cette critique avec beaucoup d'humilité. En septembre 1722, il se fiance avec une demoiselle Élisabeth Dorothée, qui l'épouse peu après. Et avec sa jeune femme, il retourne chez sa grand-mère qui accueille le jeune couple là-bas dans le domaine familial. Il a avec lui un jeune intendant suisse qui s'appelle Heinz et qui se révèle un bon administrateur. Et puis, il a un ami qui était avec lui au collège de la Halle qui revient aussi avec lui. À cette époque-là, il constate que Dresde est une ville de péché. Et il décide donc de combattre au bon combat dans cette ville de Dresde et de prêcher l'évangile. Il rassemble quelques groupes de chrétiens qui sont désireux d'aller plus loin et avec lesquels, donc, il va étudier la parole de Dieu. Et c'est ainsi que commence le réveil morave. Le problème qui s'était posé à Spener et qui s'était posé à Franck se pose alors immédiatement aussi à lui. Faut-il se séparer de l'Église luthérienne? Ou bien faut-il rester à l'intérieur de l'église luthérienne? Et puis, il y a un autre problème qui va très vite le tourmenter, c'est que se trouve à Dresde, parmi ces chrétiens qui fréquentent les petites réunions qu'il organise, des Moraves qui ont fui la Tchécoslovaquie parce qu'ils sont persécutés. Et du fait qu'ils sont persécutés, n'est-ce pas, pour éviter des problèmes avec les autorités tchécoslovaques, l'Église luthérienne allemande ne reçoit pas les dissidents et en particulier ne leur offre pas la communion. Et ces pauvres gens sont assis entre deux chaises et sont chassés de leur pays natal pour la foi en Jésus-Christ. Et puis, dans le pays du refuge où ils sont allés, on ne les accueille pas non plus. Alors, Zinzendorf est profondément tourmenté par cette situation-là. Il se rend bien compte, évidemment, que si lui les fréquente, si lui les accueille, ce faisant, il se met au banc lui aussi de son église. Finalement, l'amour de Dieu triomphe dans son cœur et il commence à organiser des cercles bibliques pour les frères moraves persécutés. Et puis, il se rend compte aussi que ces frères moraves n'ont pas seulement des problèmes spirituels, mais qu'ils ont aussi des problèmes matériels. Beaucoup d'entre eux sont sans travail, sont démunis de tout. Alors, il organise des repas. Des repas pour permettre à ces gens-là de manger. Et c'est l'époque où il va chaque matin écrire un petit billet, n'est-ce pas, qu'il signe de ce pseudonyme un peu curieux, Socrate de Dresde. Je ne sais pas pourquoi Socrate, n'est-ce pas, c'était comme ça. Et où, sous ce pseudonyme, par conséquent, sans qu'on sache qui il est, il dénonce les scandales qu'il y a à la cour, les scandales qu'il y a dans l'Église. Les scandales des autorités ecclésiastiques, des autorités politiques, etc., etc., tout y passe. Il entreprend un combat tous azimuts. Selon ce qu'il avait vu donc dans le fameux dictionnaire de Bell, n'est-ce pas, il est décidé à dénoncer, n'est-ce pas, à dire, ben, oui, ces inconvertis-là ont raison. Eh bien, nous, les chrétiens, nous n'allons pas continuer dans l'hypocrisie, nous n'allons pas continuer à cacher la vérité. Ce qui est blanc, ce qui est noir, et si c'est noir, eh bien, on le dénonce. Et c'est le début, justement, de cette espèce de ministère de pamphlétaire qu'il va avoir pendant toute une grande partie de son ministère. Il s'attaque aussi à la philosophie des Lumières, évidemment. Et évidemment, au bout de quelques temps, on finit par découvrir qui est l'auteur de ces fameux pamphlets, qui est Socrate de Dresde. Et alors, il doit quitter la ville et il se réfugie dans son domaine. C'est l'époque où il va commencer à écrire aussi des cantiques. Zinzendorf va être un grand compositeur de musique chrétienne et il va composer des centaines et des centaines de cantiques qui vont naître, pas seulement lui d'ailleurs, mais plutôt dans le réveil morave, si vous voulez, vont naître des centaines de cantiques. Certains sont encore chantés, je pense par exemple « La foi renverse devant nous les plus fortes murailles », ça c'est un cantique qui a été écrit par Zinzendorf, et puis alors celui que tout le monde connaît, « Jésus, tu nous appelles à former un même corps », c'est né à ce moment-là, à Dresde, au moment où il avait donc ce ministère de pamphlétaire. C'est en 1670 que meurt Comenius, qui est le dernier des évêques de l'église morave en Tchécoslovaquie, et... la situation des frères Moraves devient tragique. Des petits groupes continuent à se rassembler à Prague pour vivre l'Évangile, pour essayer d'étudier ensemble la Bible. Beaucoup sont des descendants du réveil de Jean Hus, d'ailleurs. C'est pas ? Il y a une continuité entre le réveil de Jean Hus et les frères Moraves. Ils insistent d'ailleurs sur un certain nombre de points. Par exemple, ils sont pacifistes. Ils ne veulent pas prendre les armes. Ils rejettent aussi la peine de mort, le serment, les emplois publics. Ils ne veulent pas avoir de procès, etc. En cela, d'ailleurs, ils ont repris, en gros, si vous voulez, l'idéologie des premiers chrétiens. Alors, beaucoup de ces frères passent à Dresde, rejoignent ceux qui sont déjà arrivés précédemment, mais vu que maintenant, à Prague, la persécution redouble, eh bien, nombreux sont, il y a une véritable hémorragie, un véritable exil de ces frères moraves qui vont vers la Saxe. Et peu de temps après son mariage, Zinzendorf avait reçu la visite de frères qui étaient pourchassés, et il avait, à sa grande surprise, sa grand-mère les avait accueillis, sans s'occuper, n'est-ce pas, des interdits de l'Église luthérienne officielle sur ces gens-là. Notamment le chef de ces gens-là qui s'appelait Christian David, et la grand-mère avait autorisé Christian David à se construire une maison sur le domaine qui était le sien. Christian David était bûcheron de son état, et donc il avait construit en 1622 la première maison. Première maison, ce ne sera pas la dernière, n'est-ce pas, sur les terres du comte de Zinzendorf. Et il s'était mis aussi au service du comte de Zinzendorf pour entretenir les domaines du comte, puisque donc il était bûcheron. Peu de temps après, donc, il vient vers Zinzendorf et il demande l'autorisation de faire venir plusieurs autres familles de ses amis qui sont pourchassés, qui sont dans des situations difficiles. Si bien que 10 autres familles arrivent quelque temps plus tard. En 1624, ces 10 familles sont devenues 300. 300 qui sont installés sur les terres du comte de Zinzendorf. Christian David organise ces gens-là, une espèce d'église morave, et bon, lui-même n'est pas prédicateur, n'est pas pasteur, alors il se contente de lire les sermons de Comenius, ses mémoires, et il voudrait bien poursuivre le travail. Alors, il s'en ouvre au comte de Zinzendorf, et Zinzendorf prie, cherche la face de Dieu. Et finalement, se demande si ce n'est pas la volonté de Dieu que le Seigneur est en train de faire ici l'œuvre pour laquelle il a prié depuis si longtemps. Seigneur, permets que je sois utile à ton œuvre. Alors, il dit, voilà, j'ai un domaine, j'ai des moyens, j'ai de l'argent, j'ai une fortune. Eh bien, voilà des gens qui sont dans le besoin, qui sont des frères, qui veulent poursuivre le travail qui est né en Moravie, le travail qui est né avec Jean Hus. Eh bien, pourquoi ne pas entrer dans ce champ-là ? Et alors, il retourne voir quelque temps plus tard le chef donc de la communauté morave, Christian David, et il dit qu'il est d'accord. Il est d'accord. Il ouvre son domaine pour les persécuter. Et il va changer le nom de son domaine, qu'il va appeler Ernhut. Alors, je sais pas comment ceci se prononce bien. H-E-2-R-N-U-T. Ça voudrait dire la garde du Seigneur. C'est ça, Colette ? Ernhut. Alors, H-E-2-R-N-H-U-T. La garde du Seigneur. Hein? Bon, c'est le refuge, en quelque sorte, pour les persécutés. Alors, bon, très vite, évidemment, toutes sortes de gens arrivent là. Et puis, évidemment, au bout de quelque temps, eh bien, Zinzendorf déchante. Parce que il y a pas mal de brebis galeuses qui se sont introduites là aussi. Et Zinzendorf était jeune, naïf, idéaliste. Il s'imaginait que ces gens-là se disaient tous chrétiens, ben, ils l'étaient tous, et que se disant chrétiens, ils allaient vivre en chrétiens. Et en fin de compte, eh bien, au bout d'un temps, la garde du Seigneur, le domaine de la garde du Seigneur devient un petit enfer, avec des disputes permanentes, des querelles, des bagarres, etc. Alors, Zinzendorf se demande un petit peu ce qu'il doit faire. Et finalement, il se tourne devant le Seigneur, et puis il se rend compte qu'il doit mettre un peu d'ordre dans tout cela, et d'abord éliminer les brebis galeuses, ceux qui ne vivent pas en chrétien, eh bien, il les élimine, hein, c'est sûr, c'est la seule chose à faire. Et puis, deuxièmement, mettre une règle. Il élabore une règle pour éliminer tous ces indésirables-là. Et puis, il va mettre des règles dans toutes sortes de domaines, spirituels d'abord, bien sûr, moral. Et puis aussi matériel, des règles de courtoisie, des règles de bonne conduite. Par exemple, il y avait de nombreuses bagarres pour des querelles doctrinales. Il y avait différentes tendances. Il y avait des huguenots fugitifs qui venaient, qui n'étaient pas seulement des moraves, n'est-ce pas? Il y a plein de villages qui se créaient là, tout autour de son domaine. Bon, alors il y avait des querelles quelquefois d'ordre doctrinal. Eh bien, Zinzendorf dit stop avec les querelles doctrinales, terminé. On ne parle plus de ces choses-là sur mon domaine. Celui qui engagera une querelle doctrinale, celui-là part sur le champ. Alors, automatiquement, ça calme évidemment les ardeurs belliqueuses d'un certain nombre de gens. Bon, il établit des règles d'hygiène, parce qu'il y en avait qui vivaient comme des cochons. Il établit des règles de courtoisie, de savoir-vivre, etc. Enfin bref, il établit toutes ces choses-là, puis il rassemble tout son monde dans une assemblée générale qui va durer 3 heures. Et dit voilà, ce sera ici comme ci, comme ça et comme ça, à prendre ou à laisser. Ceux qui sont d'accord restent, ceux qui ne sont pas d'accord vont voir ailleurs. Alors un certain nombre de gens s'en vont, les indésirables finalement s'en vont, et les autres restent. Finalement, ce sera la règle, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de contrainte, n'est-ce pas ? Mais par contre, on accepte la règle ou on ne l'accepte pas. Si on veut venir sur le domaine d'Ernut, il faut accepter les règles. Sinon, eh bien, on s'en va librement, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de violence, mais il y a une règle qui est là. Et finalement, il établit une règle d'une vie communautaire, parce que c'est une véritable vie communautaire qui naît, et ça c'est très très intéressant, n'est-ce pas ? Qui est une règle communautaire en accord avec l'Évangile. Tout ce qu'il crée est tiré de l'Évangile. Alors, par exemple, il y a des règles de partage, pour que finalement il n'y ait pas de favoritisme. Il y a des règles de ponctualité, parce que ça, les gens n'étaient pas trop habitués non plus, n'est-ce pas ? Et finalement, 3 mois plus tard, il convoque une deuxième assemblée générale pour un autre problème qui est né entre-temps, c'est que l'Église luthérienne a commencé à s'émouvoir de ce qui se passait à Ernut. Et en fin de compte, le domaine d'Ernut était sur le territoire. Il est décidé que dans la mesure où l'Église luthérienne accepte de laisser une certaine autonomie à la communauté d'Ernut, eh bien, celle-ci va demeurer à l'intérieur de l'Église luthérienne. Alors, il y avait des tensions assez vives qui étaient nées avec l'Église luthérienne locale, et alors, ce 13 août, quelques temps plus tard, n'est-ce pas, il y a une grande cérémonie de réconciliation entre l'Église luthérienne et puis la communauté d'Ernut, qui, dit Zinzendorf, est l'occasion d'une telle bénédiction que pour le réveil, c'est une nouvelle Pentecôte. Alors, Zinzendorf devient le conducteur du troupeau qui est là sous sa responsabilité. Et alors, il y a déjà toutes sortes de gens, il comprend qu'il peut pas assumer cette tâche tout seul. Alors, il choisit 10 anciens et 7 diacres qui vont l'assister dans cette tâche d'administrer ce domaine d'Ernut. Et alors, la première chose qu'il demande évidemment à tous ces gens-là, constatant que c'est une tâche très très lourde, bien, il demande que l'on prie. Et alors, il y a toute une vie de prière très intense qui va naître dans le domaine d'Ernut et qui va être le support du réveil pendant les dizaines d'années que le réveil va durer. Alors, dans la règle, n'est-ce pas ? Bien entendu, Zinzendorf n'était pas charismatique au sens où nous l'entendons. Mais c'était un homme qui croyait fortement à la direction de Dieu. Alors, il avait pour coutume de faire ainsi chaque matin, n'est-ce pas ? C'est un peu discutable, mais enfin, c'est comme ça qu'il faisait. Il avait dans une espèce de petite boîte différents versets bibliques qui étaient là. Et alors, il tirait un verset biblique, n'est-ce pas ? Et c'était finalement l'ordre du jour, quoi, en quelque sorte. On y voyait une direction de Dieu, une réponse de Dieu aux questions qu'on pouvait se poser, aux besoins qui étaient ceux de la communauté, etc. C'était quelque chose d'important. Et souvent, n'est-ce pas, quand il y avait des litiges, eh bien, on recourait au tirage au sort. Bon, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est à imiter, en tout cas, n'est-ce pas? Bon, maintenant, bien sûr, voyons leur cœur, voyons leur sincérité, je dis pas que le Seigneur pouvait pas les aider. Par exemple, quand les sœurs de Darmstadt ont créé leur communauté, elles avaient ce moyen-là aussi. Hein, elles avaient une petite boîte où elles tiraient des versets comme ça, puis très souvent, il se trouve que ça correspondait aux besoins de l'heure, n'est-ce pas? Comme si le Seigneur leur parlait de cette manière-là. Alors, je dis pas que c'est quelque chose qui est à imiter, mais enfin, exceptionnellement, il y a des choses comme ça peuvent se produire. Alors, Zinzendorf crée aussi des chorales de jeunes. Et il est très musicien, nous l'avons vu tout à l'heure. Et alors, ces jeunes vont dans différents lieux chanter et donc rendre témoignage pour évangéliser. Ce sont des équipes d'évangélisation qui naissent de cette manière-là. Et très vite, ces jeunes qui sont entrés dans les chorales de Zinzendorf éprouvent le désir de vivre ensemble. Et alors, se créent des maisons de frères et des maisons de sœurs, où les jeunes filles, vivent en communauté de bien total. D'abord, ça commence par les maisons de jeunes gens, puis ensuite, il y a des maisons de jeunes filles qui naissent aussi. Et alors, ce qui marque la vie à Erfurt dans cette période-là, c'est la joie, n'est-ce pas ? Une très, très grande joie, avec beaucoup de chants, de cantiques. La musique tient une place très grande, et je vous le disais tout à l'heure, des centaines de cantiques naissent pendant toute cette période-là. C'est vraiment le grand moment du réveil, si vous voulez, des frères Moraves qui naît à ce moment-là. Alors, Zinzendorf retrouve aussi la place de la femme, lui donnant les tâches qui correspondent à sa vocation, c'est pas. Et finalement, il y a une grande harmonie qui naît dans ce réveil, qui est un réveil très sain, S-I-N, très sain aussi, S-I-N-T, bien sûr, et très équilibré. Alors là, tous les jours, il y a un culte qui rassemble la totalité de la population dans l'église qui est située au centre du village, n'est-ce pas ? C'est annoncé par les cloches et tout le monde s'y rend. Alors on lit le verset qui a été tiré ce matin-là, n'est-ce pas ? Pour que tout le monde sache que c'est ce verset-là, ce jour-là. Et puis, ensuite, on chante des cantiques, on chante beaucoup, beaucoup, beaucoup à Erfurt, et puis ensuite, on médite la parole de Dieu, etc., et puis les gens vont à leur travail, quoi. Alors voilà, si vous voulez, comment est né ce grand réveil morave qui va avoir ensuite, qui va s'étendre encore beaucoup plus, et finalement, qui va s'étendre dans le monde entier. C'est extraordinaire, qui est né de cette petite communauté d'Erfurt et qui va se répandre dans le monde entier. Voilà, est-ce que vous avez rapidement quelques questions à poser là-dessus ? Tu me prêtes juste un crayon, une seconde, Olivier, merci.